VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 19h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Japon, le président des États-Unis s'est recueilli aujourd'hui à Hiroshima lors d'une visite historique chargée en symboles. Barack Obama a profité de l'occasion pour appeler à construire un monde sans armes nucléaires. Jacques Aristide.
Un discours prononcé dans un impressionnant silence.
71 years ago, on a bright, cloudless morning.
Il y a 71 ans, la mort est tombée du ciel. Des mots remplis d'émotions de Barack Obama, premier président américain en exercice, a visité le parc de la paix à Hiroshima, ville japonaise anéantie par une bombe atomique américaine en 1945, ce qui allait marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le président a plaidé pour un monde sans armes nucléaires, tout en reconnaissant que cela n'arriverait probablement pas de son vivant. Après son allocution, il est allé longuement serrer la main d'un survivant. Auparavant, le visage grave, il avait déposé une couronne de fleurs devant le cénotaphe du parc du Mémorial de la Paix. Barack Obama avait toutefois averti qu'il n'effectuait pas ce voyage pour porter un jugement sur la décision prise par son lointain prédécesseur, Harry Truman, ou présenter des excuses. En réaction, la Chine a mis en garde contre une vision biaisée de l'histoire. Elle redoute que le Japon, en insistant sur le traumatisme de Hiroshima et Nagasaki, tente de faire oublier sa cruauté durant la guerre.
Avant la visite historique, les dirigeants du G7, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Canada et Japon, ont fait ce matin de la croissance mondiale leur priorité urgente à l'issue d'un sommet de 2 jours au Japon. Les précisions de Michel Joseph.
Dans leur déclaration finale, les chefs d'État ou de gouvernement des 7 pays industrialisés ont déclaré que la croissance mondiale reste modérée et en dessous de son potentiel, tandis que persistent les risques d'une croissance faible. Ils ont ainsi réitéré leur engagement à utiliser tous les outils de politique économique, monétaire, budgétaire et structurelle, individuellement et collectivement. Les leaders du G7 ont également averti qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne à l'issue du référendum prévu le 23 juin serait un risque grave pour la croissance mondiale. Une telle sortie, ont-ils estimé, renverserait la tendance à une expansion du commerce mondial et de l'investissement, ainsi que des emplois qu'il crée. Par ailleurs, le G7 s'est dit préoccupé par l'aggravation des tensions maritimes en mer de Chine méridionale et orientale. Et ses dirigeants ont souligné l'importance fondamentale d'une gestion et d'un règlement pacifique des différends.
Afrique maintenant, en Ouganda, 5 hommes ont été condamnés à la réclusion à perpétuité et 2 autres à 50 ans de prison pour le double attentat qui avait fait 76 morts à Kampala en 2010. Les Chibabois somaliens affiliés à Al-Qaïda avaient revendiqué l'attaque. Idriss Fall.
Le juge Alphonse Owini Dolo de la haute cour de Kampala a annoncé sa décision. La peine de mort prévue par le code pénal ougandais n'a pas été appliquée depuis des années. Les 7 condamnés à perpétuité, dont le cerveau du groupe, ont été reconnus coupables hier de terrorisme, meurtre et tentative de meurtre. 5 autres hommes ont été acquittés et 1/13e a été condamné à des travaux d'intérêt général pour des charges mineures. Le 11 juin 2010, en pleine retransmission de la finale de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et l'Espagne, des engins explosifs avaient ravagé un bar et un restaurant de Kampala, faisant 76 morts. Ce double attentat était la première action d'envergure des Chebab en dehors de la Somalie. D'après ce groupe djihadiste, c'était en représailles au déploiement de troupes ougandaises en Somalie. Après Kampala, les Chebab ont perpétré une série d'attaques meurtrières au Kenya voisin, dont l'armée est aussi présente en Somalie.
En France, le parquet national financier a demandé le renvoi en procès du fils du président équato-guinéen Théodorine Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le point avec Arzuma Compaoré.
Si les juges d'instruction suivent l'avis du parquet et décident du renvoi, pour la première fois, un procès se tiendra en France et même en Europe d'un haut dignitaire d'un des pays au cœur de l'enquête dite des biens mal acquis. Se sont félicités dans un communiqué les associations Sherpa et Transparency International France qui avaient déposé plainte en 2007 et 2008 dans ce dossier. Théodorin Obiang a été mis en examen en mars 2014 par la justice française qui le soupçonne de s'être frauduleusement bâti un immense patrimoine en France. Celui-ci serait constitué notamment de voitures de luxe, d'un jet privé, d'un hôtel particulier à Paris, selon les instructions, des biens évalués à plusieurs centaines de millions d'euros. Le fils du président équato-guinéen avait demandé l'annulation de sa mise en examen, estimant que son statut de vice-président, chargé de la défense et de la sécurité de l'État en Guinée équatoriale, lui conférait l'immunité. La Cour de cassation l'avait débouté en décembre, estimant que les faits qui lui sont imputés avaient été commis à des fins personnelles.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Guinée-Bissau, après deux semaines sans chef de gouvernement, le président José Mario Vaz a finalement nommé Bassirou Dia comme Premier ministre. Il a été investi aujourd'hui au palais présidentiel dont les abords étaient protégés par un cordon policier. Mais les ministres du gouvernement coréen ne reconnaissent pas la décision du président Vaz de les démettre et ils ont passé la nuit dans leur bureau entouré par la police anti-émeute et la force de la CDAO. Le président Vaz dit vouloir s'appuyer sur une nouvelle majorité constituée des 41 députés du Parti de Rénovation Sociale, PRS, et des 15 députés frondeurs du PAIGC, le parti au pouvoir, soit 56 sièges sur les 102 du Parlement. Mais le PAIGC promet de former un gouvernement parallèle si le chef de l'État ne revient pas sur sa décision. Plus de détails avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Bassirou Dia, l'un des 15 membres expulsés du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, remplace ainsi Carlos Correa, l'un des vétérans de la lutte de libération nationale, qui a également été nommé à ce poste en octobre de l'année dernière, après que la Cour suprême de justice, à travers son accord numéro 1/2015, est considéré inconstitutionnel le gouvernement d'alors dirigé par Bassirou Dia. Quelques heures avant la publication de ce décret présidentiel qui nomme Bassirou Dia, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap-Vert, PAGC, a mis en garde contre la possibilité que le pays ait deux gouvernements si le président de la République nommait un premier ministre inconstitutionnel. Bassirou Dia est né le 1er janvier 1973. Sa nomination a été dénoncée par le PAGC comme un coup d'État constitutionnel. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Actualité hors d'Afrique, en Syrie, la coalition internationale intensifie depuis mardi ses frappes contre le groupe État islamique pour appuyer un assaut terrestre majeur des forces arabo-kurdes dans le nord de la province de Raqqa. Eric Manirakiza.
Au total, 150 raids ont été menés contre le groupe État islamique en trois jours. Cette offensive aérienne accompagne un assaut terrestre majeur de forces arabo-kurdes. Le Pentagone précise que des forces spéciales américaines soutiennent au sol les forces démocratiques syriennes dans un rôle de conseil d'assistance. Ceci leur a permis de reprendre mercredi aux djihadistes le village de Fatsa dans le nord de la province de Raqqa. Depuis mardi, des civils sont pris au piège des combats. Environ 300 000 personnes vivent dans la ville de Raqqa. Les djihadistes utilisent les civils comme boucliers humains, ont déclaré les forces démocratiques syriennes. Mais des passeurs parviennent à faire quitter des habitants de la ville, moyennant qu'entre 100 dollars par tête. L'ONU doit débattre aujourd'hui du désastre humanitaire en Syrie et en Irak, où quelque 50 000 civils sont bloqués à Fallujah et manquent de nourriture et de médicaments.
Et vous terminez la course à la Maison-Blanche ici aux États-Unis. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a franchi jeudi un cap historique dans sa quête de la présidence. Il dispose désormais de la majorité des délégués nécessaires pour l'investiture automatique du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Les détails avec Chérubin Dorsil.
Donald Trump a passé la barre. C'est lui-même qui l'a annoncé lors d'une conférence de presse à Bismarck, dans le Dakota du Nord. Il a dépassé les 1237 délégués, une majorité qu'il était de toute façon assuré d'atteindre le 7 juin pendant les primaires républicaines dans plusieurs États, dont la Californie. Ce quasi-néophyte de la politique, âgé de 69 ans, a surmonté toute la concurrence d'au moins 16 autres candidats qui ont fini par jeter l'éponge. Sans concurrence depuis trois semaines, il était de facto devenu le candidat officieux du parti pour la Maison-Blanche. Maintenant, M. Trump concentre sa puissance de feu sur Hillary Clinton, qu'il qualifie inlassablement de malhonnête. Mme Clinton ne devrait parvenir à l'investiture que le 7 juin, lors des scrutins démocrates de Californie et de cinq autres États. Bernie Sanders ne lâche pas et a même demandé un nouveau décompte dans le Kentucky, où Hillary Clinton l'avait emporté de justesse. Mais le résultat a été confirmé hier par les autorités locales.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur...